Guillaume de Lyon. Je voudrais juste témoigner rapidement. Je suis allé une ou deux fois faire des petits passages à l'Arche. J'avais des a priori au départ parce que je me disais, des personnes qui essayent de vivre de façon autonome, sans machine à laver la vaisselle, sans machine à laver le linge, mais ils doivent trimer toute la journée comme des fous. Et en fait, en me rendant sur place, je me suis rendu compte, j'ai été vraiment frappé par le rythme de vie. Je trouvais que les gens avaient le temps de vivre, prenaient le temps de vivre, que j'ai été impressionné par le peu d'heures de travail qu'il y avait. Ça doit sûrement dépendre des saisons aussi. Et donc, que durant le travail, il y avait un rythme assez... on prenait le temps de bavarder, de s'arrêter. Il y avait de longs moments entre les temps de travail. Et vraiment, ça peut vous sembler tout naïf, cette réflexion, mais lorsqu'on est un peu intoxiqué par l'idéologie de la croissance, cette idée qu'on peut vivre de façon beaucoup plus simple et autonome en travaillant peu et de façon heureuse, est assez impressionnante.
Oui, bonjour, Patrice Bouquet-Deschaux. Ça fait une quinzaine d'années que je me suis investi dans une entreprise un peu particulière qui s'appelle la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, que peut-être certains connaissent. Et je voudrais rebondir sur ce que Michel a dit et ce qui a été partagé tout à l'heure à propos du système. On est dans le système ou on est hors du système. Et puis la notion de démocratie par rapport au nombre. Et m'appuyer sur cette expérience de la NEF pour dire que si on avait attendu d'être au matin du grand soir, comme disent certains, pour agir, c'est-à-dire faire quelque chose qui ne soit pas dans le système et changer complètement les choses, ben, on n'aurait jamais démarré. Donc il faut faire attention quand on porte des idéaux comme on peut les porter. Il y a toute la question de la transition, on pourrait appeler ça comme ça, qui se pose. Et je crois qu'il ne faut pas attendre, qu'un jour on puisse faire complètement autre chose. Il faut démarrer avec les gens qui sont là, qui sont prêts à agir. Et puis il faut organiser, et puis il faut se coltiner la dure réalité. Et puis petit à petit, il ne faut pas oublier ses idéaux et arriver peu à peu à changer quelque chose en étant conscient que peut-être on n'arrivera pas à très très loin, mais au moins on aura tenté quelque chose pour le faire. Et moi, je reste quand même suffisamment optimiste pour dire que l'exemple, si c'est un exemple de cette initiative de la NEF, elle peut aussi se démultiplier. Et la preuve, c'est que dans beaucoup de pays, maintenant, il existe des choses comme ça qui essayent de rendre le rapport à l'argent un peu différent et, on peut dire, réhumaniser l'argent. Et par rapport à la notion de grandeur, je crois qu'effectivement, ce que nous importe le système... le grand système, c'est quelque chose qui est toujours plus simplificateur, qui est toujours plus globalisant et quelque part qui nous dépossède de la maîtrise des processus. Et donc ça, c'est un danger inhérent au système. Et quand on fait quelque chose comme la NEF, au bout de 15 ans, on se rend compte qu'on est aussi soumis à ce danger-là. Et comment on fait pour essayer d'y répondre ? Ben, c'est pas simple, mais ça veut dire faire l'effort de relocaliser, là encore, l'usage de l'argent. Alors, d'un côté, on a besoin d'une entreprise qui fonctionne, autrement dit, d'un système clos qui a sa propre économie, qui a sa pérennisation par son système, et en même temps, il faut garder absolument présent à l'idée que ça ne peut trouver un chemin fructueux que si, en permanence, il y a ce souci de contre-pouvoir, si on peut dire, de contre-balancement par de l'initiative locale, humaine, à dimension humaine, qui s'instaure. Ce qui veut dire qu'on n'a pas en tête qu'une fois qu'on a ouvert un compte à la NEF, une fois qu'on a pris un abonnement à l'écologiste, ou à la revue Silence, pardon Michel, on a tout fait quelque part, hein, et on peut se rendormir. Ben non, c'est ça, je crois, un des dangers qu'on a en face de nous. C'est de se dire, on a fait un premier pas, mais dans ce pas-là, il faut continuer à être actif, il faut envoyer des articles à Silence, et il faut être actif dans les instances de la NEF, dans les groupes d'initiatives locaux, il faut se dire, je prends mon destin en main. Autour de moi, il y a d'autres personnes, sans doute, qui ont fait ce choix d'agir différemment avec leur argent. Alors voyons au plan local s'il y a des projets qui existent, si on peut les soutenir, si les épargnants ont envie d'échanger entre eux, etc., etc. Je crois que c'est une grande invitation à se saisir en permanence des outils qui sont là, et puis voir où ça nous mène. Sans d'un côté se faire de grandes illusions, mais d'un côté avec plein d'espoir quand même pour faire bouger les choses. Voilà.
Oui, bonjour. Je suis un petit peu en décalage parce que je voulais intervenir avant. Je suis Claudio, je viens d'Argentine et je voulais amener un petit peu un témoignage et donner peut-être d'autres types de musique d'oiseaux de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Je suis très content d'être ici. Je voudrais remercier aux gens qui m'ont invité. Ils se reconnaîtront. Il y a quelque chose que je trouve que c'est important qu'on puisse écouter. Hier, on a beaucoup parlé du CO2. C'est vrai, c'est une réalité. Moi, j'ai quelques images dans ma tête. Mon père habite en Patagonie. Les enfants qui sont un peu riches peuvent s'acheter des crèmes pour se protéger des ultraviolets. Ceux qui sont pauvres, 3 points, les cancers de peau ont augmenté de 10 000%. J'ai une autre image, ça fait quelques années, je vais en Équateur. Toute une communauté indienne à côté de Guayaquil a dû se déplacer de 250 kilomètres parce qu'ils ne peuvent plus semer. Donc maintenant, ils sont obligés d'avoir changé toute leur manière de vivre et ils ont des chèvres à 250 kilomètres de la mer. Il y a une image hier que je ne sais pas qui c'est qui l'a utilisée, et ça fait chaud au cœur, je trouve, parce qu'il a parlé de l'arbre et il n'y a pas plus beau qu'un arbre parce que c'est le mouvement. Et ça m'a fait poser la question, tout ce qu'on dit ici, pour moi, pour nous, pour plusieurs qui sont ici, c'est très important parce que ça fait des années qu'on bouge et on arrive à un moment donné où on ne sait plus pourquoi on bouge. Et je me suis posé la question dans quelle... On a créé un petit réseau, ça fait quelques années, qui s'appelle Tandem, c'est-à-dire de pédaler ensemble, Sud-Nord et pas Nord-Sud. Ça fait des années qu'on propose... Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? On nous dit c'est très intéressant, mais on ne nous a jamais posé la question, apportez-nous quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas pire de ne pas recevoir des cadeaux. En donner, on peut en donner, mais les recevoir, c'est encore une autre chose. Donc, ce que j'avais envie d'apporter, plusieurs personnes ont parlé d'Argentine, et j'aurais peur qu'il y ait un quiproquo. Effectivement, on a le plus grand club de troc du monde, 1 million de personnes. Mais ça, c'est une nécessité, parce qu'autrement on en crève. Avec le Brésil, on a été signataire, pas seulement signataire, co-organisateur, pourtant on est vraiment un tout petit réseau, hein, du premier forum social mondial, j'étais là-bas quelques mois avant. L'Argentine et le Brésil sont en ce moment en train de créer énormément de coopératives et surtout les femmes. Parce qu'il y a un besoin de bouffe, simplement. Donc, s'il y avait une invitation à proposer, je trouve que dans des prochaines rencontres, ça serait important qu'il y ait toujours, sur 3 ou 4 personnes, au moins une personne du Sud, pas pour dire une vérité, moi j'en ai aucune, hein. Dans ces 2 jours... J'ai énormément reçu et j'espère pouvoir continuer à faire la navette, ce qu'on fait depuis plus de 20 ans. Mais il y a des gens qui ont évoqué les militaires. Ça, on en connaît. J'ai vécu que sur des dictatures. Je suis né avec une dictature, j'ai poussé avec une autre, j'étais ado. J'ai dû me cacher pour faire l'amour parce que les dictatures n'aiment pas qu'on fasse l'amour. J'étais jeune adulte, jeune étudiant, jeune travailleur, avec 3 autres dictatures. Donc je connais ce que c'est les militaires. Mais je me pose la question, c'est pas un vieux militant, parce que je me sens de plus en plus jeune. Je reviens à mes choix de 15 ans. Être radicalement insurrecto, hein, insurrection, je ne sais pas comment on le dit, insurgé non violent, ce qui n'était pas évident à l'époque, parce que si on voulait draguer, c'était mieux d'avoir un fusée derrière ou un pistolet dans le pantalon. Et donc ça a été un vrai choix. Mais je me pose la question, quand on voit comment le néolibéralisme, vous savez, une des hypothèses qu'on prend sérieusement, et heureusement maintenant même les économistes classiques, c'est que le néolibéralisme a commencé avec le coup d'État au Chili, qui était la première tentative de démocratie marxiste. Je ne suis pas marxiste, j'en ai pas à me défendre. Je suis plutôt certaines idées de Gandhi et des libertaires. Ça, je peux le défendre, je peux l'argumenter. Mais quand on voit comment cette mécanique a été mise en place, ça fait 30 ans où on a eu énormément de dictatures. On a tué 150 000 lutteurs sociaux. 150 000, c'est-à-dire tout ce que certains, des gens comme Alain Touraine, diraient, il n'y a pas d'acteurs sociaux. Ben, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sociaux en Amérique latine parce qu'une grande partie a été annihilée. Tout ce processus-là nous a mené à un processus de privatisation. Ce qui arrive en Argentine, ce n'est pas quelque chose de gratuit. C'est quelque chose, je ne suis pas manichéiste pour un sou, mais maintenant il faut appeler un chat un chat. La dette externe alimente surtout les pays du Nord. Les pays du Nord ne pourraient pas avoir leur niveau de vie s'ils n'avaient pas la dette externe. Nous, moi, quand je suis parti d'Argentine, un des arguments, excusez-moi, je prends un tout petit peu de temps, parce que je sais que le temps est, mais j'essaye de le faire avec le dieu Kairos, hein, qualité et pas seulement quantité. Je disais, quand je suis parti d'Argentine, et le coup d'État a été fait parce qu'il y avait 8 milliards de dettes externes. Quand les militaires sont partis, ils sont partis avec 47 milliards de dettes externes. Maintenant, on est à 139 milliards d'externes. Le Fonds monétaire international, quand la Russie n'a plus pu emprunter de l'argent, a obligé l'Argentine à emprunter. Et ça, ça fait un vide tel qu'on est resté sans pays en Amérique latine. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'État, pas seulement en Argentine. Toutes les privatisations en Argentine les plus importantes ont été gagnées par des capitaux français. En 2020, vous savez qu'il y a des prospectives, qu'il n'y a plus d'eau potable. Les capitaux français ont déjà la main mise sur 60% de l'eau en Amérique latine. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que je trouve, je crois que je vais en rester là, parce que je ne voudrais pas abuser non plus de votre temps, mais de se poser la question, cette semence de la décroissance, elle tombe sur quelle représentation? Elle tombe sur quel terrain en chacun de nous? C'est ça, je trouve que c'est important, c'est de se questionner, est-ce qu'on a envie d'écouter? C'est pas qu'on va dans le mur, nous on est dans le mur. Argentine, c'est un pays de la bouffe, 300 enfants par jour meurent, c'est une folie. Si vous comptez jusqu'à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un chômeur. On a créé 6 millions de pauvres l'année dernière. Il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas quel journaliste à Télérama, qui avait fait un article qui disait, si vous voulez savoir où on va, regardez l'exemple de l'Argentine. Mais ce n'est pas pour parler de l'Argentine seulement. Si on parle de la Colombie et de la mainmise qui est en train d'arriver, ça veut dire qu'on est tous co-responsable. Si on vit ici avec une certaine qualité, c'est aussi parce que quelque part ailleurs, on est en train de payer tout ça. Alors, ce n'est pas du tout un discours pour culpabiliser les gens, les peuples, mais si on veut aller vers cette sobriété, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'autrement, on continue dans la guerre. Un vieux pépé m'avait dit un jour dans une conférence, vieux pépé pour moi, c'est un bon signe, et on est dans une guerre économique. Alors, on s'est posé la question, qui sont les collabos? Et ça, je trouve que c'est une bonne question qu'on se pose, parce qu'on est tous co-créateurs, co-responsables. Simplement pour finir, ce que je voudrais, je ne sais pas si c'est pour finir, en fait je dis une connerie, c'est pour commencer ou pour continuer. C'est que si on mettait dans chaque acte, chaque fois qu'on regarde, chaque fois qu'on s'embrasse, chaque fois qu'on s'engueule, chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on ne produise pas. Cher Michel, on ne se connaît pas, mais je sens qu'on va se connaître, parce que je suis en train de faire un petit réseau qui s'appelle AMAC. Et ça sera seulement pour ça. Alors, on peut regarder le ciel, mais on peut regarder aussi la terre. Voilà. Donc, je trouve que si on mettait, c'est le nouveau, peut-être, paradigme, qui n'est pas nouveau, parce que plein de civilisations avant nous l'ont fait, c'est de mettre la vie au centre. Et à chaque fois, et quand je dis la vie, c'est pas seulement les êtres humains. Et c'est pour ça que par rapport au marché, à la société de marché, il y a un poète espagnol qui est mort chez vous, vous l'avez accepté comme moi, comme réfugié, à l'époque, qui est García Lorca, et qui dit « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Merci.
Bonjour, Claude Verret de la Drôme. Une des grandes qualités de la journée, ça a été de pouvoir correspondre avec beaucoup de personnes que j'ai croisées. Et deux choses m'ont paru assez essentielles qui venaient un peu à contrario de ce qui a été dit tout à l'heure. D'abord, une trentaine de personnes avec qui j'ai parlé se sont retrouvées au Larzac aussi. Donc les altermondialistes sont aussi ici et sont aussi sur le terrain à construire des alternatives. Diviser encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelque chose de fondamentalement positif sur un mouvement qui serait en train de naître. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chacun de nous sommes dans le cadre d'une décroissance ou d'une sobriété ou d'une pauvreté volontaire, nous sommes amenés à faire des choix qui sont souvent, ce qui a été dit, des choix de lieu. Je fais le lien avec la dame qui vit dans une communauté de l'Arche ou avec Pierre Rabhi, des choix de vie dans des lieux en milieu rural, que ce soit pour une bonne construction de cette sobriété, avec des alternatives au niveau de l'énergie, avec une biodiversité, avec des marchés de proximité, avec une autosuffisance alimentaire. Et on pourrait dresser une liste de constructions, de choses qui vont dans le sens d'une décroissance et d'un progrès tel qu'il est envisagé aujourd'hui. Seulement, à la base, toutes les personnes aussi avec qui j'en ai parlé se sont souvent heurtées à un problème, le problème de l'usage du foncier en milieu rural. La confiscation du foncier par le tourisme, la confiscation du foncier par ceux qui ont énormément d'argent, la confiscation pour une multitude de raisons, ne permet pas à ce que des quantités de gens puissent installer, construire des alternatives en milieu rural. Alors là, je ferai peut-être le lien aussi avec la NEF, c'est qu'il y a peut-être besoin qu'il y ait des fonds qui soient déposés quelque part afin qu'il y ait une sorte de capital qui puisse servir aux alternatives, mais c'est aussi un problème national et même international, puisqu'aujourd'hui, avec l'entrée, par exemple, de la Pologne dans le marché commun, on va mettre 2 millions de petits paysans, 2 millions de fermes à la rue quasiment, en installant une agriculture productiviste telle qu'elle a été faite dans les pays occidentaux. Donc, il y a un problème foncier, et la personne d'Argentine parlait du déplacement des Indiens, et à d'autres, dans tous les pays du monde, on parle de déplacement de population et de confiscation de ce foncier. Je pense qu'il y a un problème de l'usage du foncier sur la planète, qui est aussi une nécessité. On parlait de l'air, on parlait de l'eau. Je crois que la terre est aussi un bien commun qui ne devrait pas être privatisé.